Voici un documentaire sur le monde des petits paysans que j'ai choisi de nommer le monde des hérissons pour faire un parallèle avec la disparition de nos petits hérissons et celle de nos petits paysans. Un documentaire sans concession, sans langue de bois, la réalité du terrain. L'histoire de Max, Christian, David, Hélène et les autres. Dans le département de Tarn-et-Garonne, il existe un charmant village assis sur un promontoire, Parisot, qui est situé sur l'axe Villefranche de Rouergue et Montauban. Parisot est une ancienne citadelle romaine récemment restaurée et justement, pas très loin de ce joli petit village, vous allez retrouver la ferme de Serein. Une ferme située sur les derniers contreforts du Massif central, dans la région du Bas-Rouergue. Alors Bernard, vous êtes situé dans un lieu magnifique.
Oui, on est sur les derniers contreforts du Massif central, là, dans la partie Rouergue plutôt que Quercy, qui est juste de l'autre côté de la vallée de la Bonnette. Agriculteur depuis 1979 et j'étais revenu sur la ferme où travaillaient mes parents. Depuis 1953, ils étaient venus sur cette ferme. J'étais le plus jeune de la famille et j'ai eu envie de continuer à travailler dans l'élevage du mouton.
Vos parents déjà travaillaient dans l'élevage du mouton ?
Oui, mes parents avaient déjà un troupeau de moutons. Quand je suis revenu, il devait y avoir dans les 180 brebis. Et Parisot était un secteur où il y avait beaucoup d'élevage ovin. Il y avait des foires, des marchés, tous les 9 de chaque mois, où ils pouvaient arriver jusqu'à 3000 agneaux, donc des environs. C'était vraiment un marché qui était connu pour trouver des agneaux de qualité. Venaient des acheteurs un peu partout, de Sisteron, de Pauliac, du centre aussi, parce qu'ils savaient qu'ils trouvaient un agneau qui était élevé sous la mer, qui va téter sa mère jusqu'au moment de la vente. Il a à sa disposition de l'aliment. Il est élevé en bergerie, ça fait partie de la tradition, alors que sa mère, elle, va pâturer dehors. Elle revient, elle le fait téter. Quand c'est en période hivernale, ils restent tous les deux à l'abri, la mère et l'agneau. Et ils consomment les foins et les céréales qu'on a récoltées pendant l'été. Voilà un peu comment ça se passait. Donc moi, je suis revenu. J'ai eu la possibilité de reprendre une exploitation voisine à ce moment-là. C'était plus l'envie d'être agriculteur et éleveur que de l'argent disponible qui me faisait faire ce choix. Mais bon, je ne l'ai jamais regretté. Voilà, il y a eu des périodes des fois difficiles. Hein. On a connu des crises, c'est pas nouveau les crises. Il y en avait dans les années 83 où d'un seul coup il y avait des effondrements de prix importants. Puis on a essayé de travailler encore plus sur la qualité. Donc je me suis investi après et je me suis mis à travailler avec un groupement de l'Aveyron, un groupement de producteurs qui nous ont encouragés à mieux travailler dans cette production, à mieux connaître notre produit. Depuis, ça continue et depuis, il y a un de mes fils qui est revenu sur l'exploitation et qui travaille aussi avec moi. Donc on a constitué une société, un GAEC, et je suis content de travailler avec lui. On a mis en place un troupeau pour la production de lait. Voilà, ça a été le choix de Jean-Luc, mon fils. Bon, peut-être parce qu'il avait aussi envie de créer sa production à lui. C'est un choix que j'ai respecté. On a diminué un peu le troupeau viande et porté un produit jusqu'au bout. C'est aussi une démarche qui m'avait plu. J'avais bénéficié aussi des soutiens là, de ce moment-là et des conseils de la Chambre d'agriculture. On avait mis en place un projet pour commercialiser ces agneaux. C'est un plus financier, mais c'est aussi un plus dans ce qui est relation entre monde rural et néo-ruraux ou citadins. À partir d'un produit, il y a des échanges. Ça permet de mieux comprendre les attentes des uns et des autres, aussi les soucis. On essaye de leur porter un produit qu'ils attendent par rapport à de la qualité, mais ils attendent aussi des explications. Comment on travaille, ils sont heureux de venir sur la ferme. Et on ne part pas là en concurrence par rapport aux grandes surfaces ou aux bouchers. Chacun a sa particularité, chacun apporte des choses des fois intéressantes aux consommateurs. Le boucher a du savoir-faire dans la découpe, il va servir exactement le morceau que souhaite le client. Nous, c'est davantage un colis où le client va falloir qu'il se débrouille avec les morceaux qui sont à l'intérieur. Donc, c'est des fois une découverte pour le consommateur parce qu'il y a des morceaux qu'il n'a pas l'habitude de cuisiner. On essaye là aussi d'apporter des fois des conseils. Dans l'agneau, quand même, tout est intéressant aussi, à condition effectivement qu'il y ait de la qualité. On ne peut pas non plus tout donner, peut-être des fois en vente directe par rapport à sa production. Il y a des agneaux qui, des fois, leur histoire, elle est un peu moins belle que les autres. Donc, mais ceux-là, ils vont peut-être partir plutôt en grande surface où il n'y aura pas de précision sur cet agneau. Il sera élevé en France, point final. Il ne méritera pas peut-être d'être mis à part et porté comme quelque chose qui est vraiment de qualité. Voilà, parce que ça peut arriver en élevage, il y a aussi un peu des fois de déchets, de choses comme ça, des choses qui sont un peu moins bien. Il ne faut pas vouloir obligatoirement chercher à tout commercialiser en vente directe, sinon on risque de faire des fois des mécontents.
Assis sur un promontoire, Parisot, qui est situé sur l'axe Villefranche de Rouergue et Montauban. Parisot est une ancienne citadelle romaine récemment restaurée, et justement, pas très loin de ce joli petit village, vous allez retrouver la ferme de Serein. Une ferme située sur les derniers contreforts du Massif central, dans la région du Bas-Rouergue. Nous allons continuer cette présentation de la ferme de Serein en compagnie de Bernard Fermier, éleveur d'agneaux qui têtent le lait de leur mère. Donc on va parler donc de ces petits agneaux qui restent sous la mère pendant un certain temps. Combien de temps ?
Moi, je suis engagé dans une démarche de qualité. Je travaille donc aussi avec le groupement de producteurs qui est dans l'Aveyron. On a un cahier des charges à respecter puisqu'on est dans une production label rouge. Et donc, il va falloir respecter des choses qui font partie des habitudes de la région, qui font partie du savoir-faire des anciens, tant au niveau de la façon d'élever des agneaux que tout ce qui est lié aussi à un terroir. Donc, tout ça, c'est bien noté dans ce cahier, on va le respecter. Ces agneaux, quand ils partent vers le groupement, ils peuvent être destinés à être labellisés. Après, moi, comme je sors un peu du circuit pour la vente directe, je ne passe pas par l'abattoir qui permettrait cet agrément. Donc, je ne dis pas que mes agneaux sont des agneaux label rouge. C'est des agneaux élevés dans une démarche de qualité. Ils vont bénéficier donc d'un aliment agréé label rouge. Ils vont bénéficier du bien-être animal. Ils vont avoir des choses qui correspondent au cahier des charges agneaux de l'Aveyron label rouge. Et donc aussi, au niveau de l'âge, ils ne doivent pas dépasser un certain âge. Ils doivent être assez jeunes. Il faut qu'ils aient moins de 5 mois pour être dans cette démarche labellisable. Puisqu'on est sur donc, moins de 5 mois, alors que certains agneaux, des fois, peuvent, dans d'autres secteur où il y a d'autres habitudes, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça va être une viande différente, avec un peu plus de maturité et donc des goûts des fois un peu plus prononcés. Ou des particularités comme ceux qui font de l'agneau dans les prés salés. Chaque région a des particularités. Comme dans les vins, il existe des terroirs qui donnent des vins différents. En agneau aussi, on a des différences selon les régions, selon les habitudes des éleveurs. Et tout ça, ça donne un produit quand même qui a sa particularité. On ne va pas dire c'est le meilleur. Non, c'est l'agneau qui est élevé comme ça ici. Il a sa particularité, comme d'autres aussi ont des particularités. Au consommateur, après, de rechercher celui qui va lui plaire le plus, comme on va prendre des fois plutôt un vin d'Alsace. Chacun a sa particularité. C'est intéressant de retrouver dans un produit des choses propres à un terroir, à des habitudes ancestrales des producteurs. Et c'est ça qui fait la diversité. Et voilà, c'est comme ça qu'on a plaisir d'aller d'un produit à un autre, même à l'intérieur d'une même production. On n'est pas concurrent, on est chacun dans un secteur avec des savoir-faire, avec une histoire qui ne va pas être tout à fait la même. Peut-être que même celui du Quercy il va être des fois un peu différent que celui du Rouergue ou de l'Aveyron, alors qu'on est assez proche. Mais c'est des terroirs différents, avec des herbes qui n'ont pas le même support tout à fait. Le sol va être plus léger sur le Quercy, ça ne veut pas dire que l'herbe qui va être pâturée n'est pas intéressante. Elle va être différente de celle peut-être du Rouergue où on a des sols plus profonds. Et ça, ça va se retrouver. Et si le consommateur cherche justement à retrouver ce qui est lié à cette histoire, à cette production, c'est une démarche qui peut être intéressante. Il faut bien se nourrir, mais en même temps, comprendre l'histoire d'un produit, ça peut être passionnant.
Je suis avec Bernard sur l'Écosse du Quercy-Rouergue, dans le département de Tarn-et-Garonne. Il nous invite à découvrir le passionnant métier de berger et éleveur d'agneaux laitons. Jusqu'à présent, il tenait à accompagner ses bêtes jusqu'à l'abattoir, dans un souci du bien-être animal, où il leur préparait lui-même leur box avec de la paille fraîche. Il tient toujours à les accompagner, mais malheureusement, il ne peut plus préparer leur box.
Mais ça ne veut pas dire qu'on a baissé dans ce souci du bien-être, au contraire. Mais c'est vrai que là aussi, on pouvait trouver des fois des différences dans les locaux qui étaient destinés à la réception des animaux. Il y avait des abattoirs où il y avait vraiment ce souci que l'animal soit dans de très bonnes conditions, qu'il ait une aire paillée, qu'il ait de l'eau propre. Dans d'autres, peut-être encore, il n'y avait pas eu obligatoirement assez de réflexion à ce niveau-là et c'était peut-être pas la priorité, le local. Mais depuis, il y a eu des progrès qu'une bête, même avant de passer à la chaîne d'abattage, qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles, c'est mieux et pour elle et pour tout le monde, ça évite des stress et c'est quand même recherché de plus en plus par tout le monde.
Dans les propos de Bernard, on peut retrouver un peu les rites amérindiens où le chasseur remerciait et honorait l'animal pour la nourriture qu'il pouvait procurer. Bernard fait partie de ces éleveurs préoccupés par le bien-être animal du début jusqu'à la fin.
On va les lâcher justement, ils vont aller téter leur mère, retrouver leur mère parce que depuis ce matin où les mères ont eu la ration et le foin, eux, ils sont un peu à part pour laisser leur mère tranquille, un peu pour ne pas être toujours attirés sur les tétines. Donc, il y a des périodes où ils vont être isolés et des moments où on va les relâcher, ils vont aller téter, ils vont être avec leur mère. Voilà. Et après, eux, des fois, ils peuvent aller en libre-service à nouveau, trouver l'aliment parce que c'est bon pour leur croissance.
Ouais, c'est des agneaux, là, de ce côté? Non. Ah bon? Ça vous arrive d'avoir des brebis qui refusent d'allaiter leurs petits?
Oui, bien sûr. Oui. Ouais, y a des brebis qui, on va dire, elles ne vont pas être très maternelles. Et alors nous, des fois, on se croit malin parce qu'on dit on a trouvé une qui l'a adoptée. On va essayer de faire adopter un agneau à la naissance. Dès qu'on voit que la brebis va faire des petits, on va prélever des fois les premiers sucs vaginaux, frotter l'agneau. Il y a une relation entre la mère qui veut faire son petit et cet agneau qu'on lui présente. Et des fois, elle se met à le lécher, elle crée une relation et puis elle veut bien l'adopter, le faire téter les jours suivants. Alors, est-ce que c'est nous qu'on l'a trompé? Je ne suis pas sûr. C'est des fois elle qui, je crois, a bon caractère et accepte ça. Parce qu'il y en a qui, le lendemain, se rebellent et disent « Mais celui-là, c'est pas le mien. J'en ai fait un autre et je sais bien que c'est celui-là le mien. » Mais dans le troupeau, on dit « C'est un troupeau de moutons, tout le monde suit. » Non, c'est vrai qu'il y a des meneuses, c'est vrai que ce que je disais après, il y a celles quand même qui sont plus craintives. Il y a des différences de comportement. Et il y en a qui ont meilleur caractère que d'autres. Mais ça existe chez les brebis. Même si dans le troupeau, là, on a l'impression que tout fonctionne pareil, non, on en a qui sont très courageuses, très autoritaires, d'autres beaucoup plus en retrait, et elles ont aussi des différences même physiques. C'est vrai que là, bon, elles n'ont pas la même implantation de laine, elles n'ont pas quand même la même couleur des yeux, les mêmes, voilà, il y a des différences, même si nous, dans un premier regard, on a l'impression que toutes elles se ressemblent.
En compagnie de Bernard Rossignol, fermier éleveurs d'agneaux qui têtent le lait de leur mère.
Sinon, il y a vente directe ici sur la ferme?
Non, pas tellement, puisque je travaille plus sur commande. Pour ne pas avoir de l'invendu, on est sur des viandes fraîches. On ne peut pas rester avec des viandes qui vont vite s'abîmer au bout de quelques jours. Il faut qu'elles soient utilisées ou alors après conservées à très basse température par celui qui va les recevoir. Donc c'est mieux de travailler sur commande. Bien sûr que des fois il y a quelques personnes qui vous disent bon, mais je vais venir le chercher ici. Après, par contre, j'encourage tous les clients à venir sur la ferme pour qu'on reparle un peu de la façon dont on travaille. Donc les visiteurs sont toujours les bienvenus. Il faut qu'il y ait dans un circuit court quand même de l'échange à partir du produit. Donc il faut que le consommateur il puisse venir à la rencontre de l'éleveur et qu'on puisse parler, qu'on puisse prendre un verre ensemble et discuter de notre boulot. Quoi. C'est la différence avec des produits que l'on va trouver mais qu'on ne va rien savoir sur leur histoire. Et je crois que c'est important. Voilà. Autant, c'est très bien les grandes surfaces où on se promène, où on a des rangées de produits, mais on ne sait pas grand-chose sur ces produits.
Il faut prendre le temps de venir vous voir.
Oui, moi, sur mon dépliant, je marque que je suis heureux d'accueillir les gens sur la ferme. Ouais. Il n'y a pas de souci. Quoi.
Oui, en plus, c'est une très belle ferme, super bien située.
Ça, c'est à nous d'avoir ce souci quand même de... Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un produit de bonne qualité est fait dans n'importe quelle condition. Même si des fois ça existe. Il y a des éleveurs des fois qui n'ont pas le souci de leur ferme et pourtant qui font du très bon travail en tant qu'éleveur. Mmh. Où les bêtes seront bien soignées ou bien nourries avec des aliments de qualité. Mais des fois ils ne vont pas avoir le souci de l'organisation un peu des choses. Et il y aura... On aura l'impression qu'il y a du laisser-aller. Mmh. Et pourtant, dans le travail de l'éleveur, il n'y en aura pas dans le produit. Alors qu'on peut des fois aussi avoir l'inverse. On peut avoir quelque chose qui semble très bien organisé, comme fait dans un laboratoire. Et puis justement, on aura un produit qui sera un produit de laboratoire.
Oui, complètement aseptisé.
Voilà. Donc, c'est pas facile à y voir clair pour les consommateurs. Moi, je le reconnais. Quoi. C'est pour ça quand même que d'aller se rendre compte un peu... C'est pas obligatoirement une erreur. Après, il faut qu'il y ait une certaine transparence. Il faut pas.
Alors, on va rappeler l'adresse.
Oui, c'est sur la commune de Parisot, au lieu dit Serein. Et voilà, c'est là que se trouve la ferme. Et vous voyez, en dessous, là, on a des pâturages. Ce sont des prairies naturelles. Peut-être que déjà, au Moyen-Âge, on avait le même type de paysage. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Là-bas, il y a une chapelle qui date de. De 1050, je crois. Au loin, on voit le château de Cornusson qui date du 15e ou 14e siècle. On ne fait pas de désherbage. S'il faut apporter effectivement 30 unités d'azote, on va le faire. Ce n'est pas 300. Voilà, ça va être du raisonné. Mais il ne faut pas laisser des bêtes ni des plantes en souffrance. Donc, des fois, apporter un minimum, ce n'est pas obligatoirement une erreur. Une démarche dans laquelle je suis à l'aise. Vouloir rien apporter, on va laisser des plantes, des animaux en souffrance. Parce que aider un petit peu, c'est pour ça que je suis plus à l'aise dans du raisonné que dans d'autres démarches qui sont plus rigoureuses. Mais bon, je respecte aussi les autres. Des fois, certains ont réagi aussi à des excès et ont voulu tout supprimer. Mais il y a moyen sûrement d'aimer la nature, d'aimer... et de faire quelques apports nécessaires. Et on ne peut pas rêver, quoi. On ne peut pas faire que... On entend beaucoup de conseils pour soi-disant sauver la planète. Et c'est sûr qu'il faut, il faut avoir ce souci de la nature. Mais des fois, si on n'a pas de l'organique à mettre sur un sol, le sol, c'est qu'un support qui va permettre à une plante de pousser. Si on n'a pas de l'organique, c'est difficile. La plante, des fois, elle ne va pas avoir assez de nourriture. Donc, un petit apport chimique, ça va lui permettre un certain développement. Mais je ne dis pas que j'ai raison. Je dis ma façon de concevoir l'élevage et donc la nourriture aussi à apporter aux plantes. Bon, nous, on a la chance, on a beaucoup d'organique. Donc, on peut faire avec très peu de chimiques. Puis on n'a pas à désherber des prairies naturelles, on n'a pas ni faire de fongicides, elles ne sont pas malades, les différentes herbes qui poussent ne sont pas obligatoirement en concurrence, donc on les laisse. Il y a un respect de la nature, Mais il faut quand même arriver à ce que des bêtes puissent se nourrir. Et après, pour pouvoir nourrir des hommes derrière, après, il faut toujours chercher à améliorer. Et puis s'il y en a qui ont des fois des conseils intéressants à donner, il faut être à l'écoute. Moi, je ne suis pas pour les solutions extrêmes.